Kunstradio. Radio Kunst.
Douze. La défense de la vérité. Un autre monologue d'équivration sans conséquence. 2007. Personnage. Andrew. Penny. Lan. Suzanne. Christopher. Lydia. Ralph. Amy. Sam. Oscar. Timothy. Début. Andrew. La défense de la vérité est la seule vraie protection de l'humanité contre l'autodestruction. Si notre espèce ne s'efforce pas en permanence pas à rechercher une communication sincère, nous resterons toujours en conflit. C'est le seul moyen de mettre tout le monde d'accord et de mener une existence harmonieuse. Penny. TPD ou quoi? Andrew. Je suis effectivement homosexuel, mais je ne vois pas très bien ce que ma sexualité a à voir avec ma proposition. Voudrais-tu avoir l'obligeance de préciser ta pensée de manière un peu plus élaborée? Penny. Il est assez facile de déduire ce que l'on est de ce que l'on dit. Andrew. Tu as raison. Donc, dans le contexte de ma proposition initiale, tu as établi un profil de ma personnalité. Est-ce que tu souhaiterais ajouter des commentaires à cette observation dans le contexte de ma proposition initiale? Sinon, si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, je suis tout ouïe. Là, la vérité est au bout d'un fusil. Suzanne. Remplacer l'humanité et se débarrasser de l'être humain est le seul vrai choix pour l'avenir de l'humanité. Il y faut extirper entièrement les aspects sauvages de l'humanité et les faire entièrement disparaître. L'homme est une race déchue. Il a eu des millions d'années pour venir à bout de guerres, de la pauvreté, des conflits. Le moment est venu pour la sincère de reprogrammer ou d'éliminer tous les défauts génétiques dans nos comportements, de réparer ce qui peuvent l'être et de laisser les autres s'éteindre de même ou, si nécessaire, de les extirper de par la force. Les êtres perpétuellement sauvages ne méritent pas d'exister. Christopher. Super ton idée. Supprimons les éléments qui font de nous des espèces sensibles et dominantes et abordons l'univers comme des singes imberbes, pacifiés et frêles. Génial. Lydia. Les humains ne sont pas responsables de leur propre mortalité. Que nous engagions, nous, ça ne changera rien à l'affaire. Ralph. Et si la vérité tolérait la destruction et ne m'apparaît pas comme une bonne protection, ami? La défense de la vérité consiste à nous rappeler en permanence que nous sommes incapables de connaître la vérité. Il faut un engagement véritable pour ne pas faire une frustration et croire que nous connaissons toutes les réponses. Nous échouons systématiquement et nous accumulons les erreurs. D'ailleurs, le simple fait de marcher pourrait être considéré comme une succession de chutes dont nous nous relevons. Il ne s'agit pas d'une approche nihiliste qui consisterait que la vérité est impossible à atteindre et que nous amènerait donc à avoir recours à des actes d'agression aveugles. Je ne vois pas aucune raison de considérer la vérité comme objectif extrême. Si la vérité existe, elle ne doit rien d'exclure. Par conséquent, Notre expérience subjective est pour nous le seul moyen de rechercher la vérité. Il s'ensuit également que l'altérité de ce qui nous fait, de ce qui ne fait pas partie de notre expérience objective, doit également être incluse dans toute conception de la vérité. Et au bout du compte, nous devons reconnaître que toute conception de la vérité n'est pas la vérité elle-même. Je pense que le processus consiste à s'accommoder de la vérité est fiable. Et ce qui concerne l'autodestruction, l'objet de la question de départ ne le sait pas. Je ne le sais pas. Tout ce qui provient de causes et conditions finira par s'écrouler. D'ailleurs, tout s'écroule en permanence. Et se reconstruit. Nous ne devons pas oublier le revers de la médaille. La création et la destruction sont aussi importants l'une que l'autre. Christopher, la fausseté ou les mensonges peuvent être aussi utiles que la vérité ou la sincérité. Après tout, ils sont tous des outils de survie. Ralph, tout à fait. Ami, dans un sens, je suis d'accord. À mon sens, tout était lié à la vérité, bien que les deux concepts soient distincts. Ce que nous considérons comme faux contient nécessairement une part de vérité si notre conception de la vérité implique l'incapacité fondamentale d'exclure que ce soit, comme c'est le cas dans la propre conception de la vérité. Christopher, tu ne dirais pas qu'un marteau est la même chose qu'un tournevis, mais ce sont tous deux des outils qui sont donc de nature équivalente, bien qu'ils aient été conçus pour remplir des fonctions différentes. De même, tu ne peux pas dire que gauche et droite reviennent au même, bien que les soient toutes deux des directions. Elles ne vont pas dans le même sens et ne peuvent pas être identiques. Une fois qu'une différence a été établie, l'élément d'égalité n'est plus applicable. Et mensonge peut être plus sûr et plus raisonnable que la vérité. Dans un auditorium bondé, des gens quitteront bien plus calmement le bâtiment si vous leur dites qu'il y a un problème d'ego, que si vous leur dites la vérité et que vous admettez que quelqu'un est sur le point de faire exploser une bombe. Dans le premier cas, la réaction des gens sera un pouf têté, calme et poli. Dans un autre sens, ce sera la foire d'empoigne et le chacun pour soi. Si quelqu'un veut absolument dire la vérité, son action pourrait être plus dangereuse pour la foule que la personne qui détient la bombe, ami. Oui, ça illustre bien ce que je disais. Je disais que je suis d'accord dans un sens, parce que je continuais à considérer que la distinction entre vrai et faux comme importante. Il semble que cela fasse partie de notre nature et il n'est pas facile de s'en défaire ou de l'ignorer. Compte tenu de l'utilité, notre version de la vérité s'élargit. Compte tenu de la vérité, nous comprenons l'utilité de l'être différent. Indra. L'ardeur dont nous faisons preuve dans notre quête de la vérité, aussi bien que sur le plan interne qu'externe, est un rappel de notre infaillibilité en tant que créature. Il est bien entendu impossible de trouver la vérité, et pourtant la quête de la vérité est une activité qui en vaut la peine, ne serait-ce que pour nous éloigner du jugement dernier ou d'actes de... en vaut la peine, ne serait-ce que aux actes de violence perpétrés les uns contre les autres. Notre objectif est d'éviter l'autodestruction. Je suis d'accord avec le fait que nous ne disposons pas des réponses, mais le fait même de les chercher nous rappelle notre caractère transitoire. Pourquoi faire? La vie est un peu plus facile si nous nous entendons bien. Trop simpliste, peut-être totalement. Je suis d'accord avec le fait qu'il s'agit d'un outil de survie. Je suis aussi d'accord avec le fait que la personne qui dit la vérité, qui ne ment pas, est une bombe potentielle. Mais nos perceptions de la façon dont les humains fonctionnent peuvent elle considérée dans l'optique du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça. Et l'altruisme, ça suffirait. Christophe. L'altruisme suffirait, mais comment y parvenir? La connaissance des bons usages, l'éducation, avoir une seule langue universelle au lieu de plusieurs. Quelle langue est la plus facile à apprendre et la plus efficace? Je ne peux pas voter en faveur de l'anglais parce que ce forum mentionne souvent bien que cette langue est compliquée et inefficace. Une communication sincère est impossible. Ça. Je ne pense pas que l'altruisme doive exiger une préparation axée sur la connaissance. Je suppose que le langage serait une forme d'éducation. Mais à lui seul, le langage représente-t-il une forme de vérité si elle ne va pas au-delà de l'utilité pratique? Je pense qu'une langue unique, tout comme un état unique, entraînerait une perte de diversité et s'avérerait donc dangereuse. Cependant, c'est formidable d'avoir une langue que l'on parle dans le monde entier, même si sa grammaire et son orthographe sont assez illogiques. Indru. Je pense que c'est une solution et qu'elle résume bien la question. Oscar. Généralement, l'altruisme est impossible. C'est un idéal irrationnel. La plupart du temps, les mensonges sont néfastes contre le mal de vérité. Les exemples donnés pour essayer de démontrer qu'une mentir ne peut être utile sont tout à fait ridicules. Sam, c'est amusant de penser que les Grecs considéraient la connaissance de la bonne vie comme plus ou moins synonyme. Et pourtant aujourd'hui, des gens comme Foucault s'assimile souvent au pouvoir et souvent un pouvoir tyrannique. Je suppose que la façon dont l'utilité, dont on l'utilise qui compte. Ce qui sous-entend peut-être que la connaissance n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise. Tout mon point de vue selon lequel la rationalité et l'irrationalité ne sont liés ni à l'altruisme, ni à l'égoïsme. De plus, est-ce que ce ne sont pas les passions qui nous amènent au bout du compte à agir? J'aurais pensé qu'une société entièrement égoïste serait très différente. On peut citer cet exemple classique où il est de toute évidence, est-il de mentir? Une personne innocente cherche à échapper à un fou qui blandit une hache et qui vous demande en passant de quel côté s'est enfui. Elle s'est enfuie. Est-ce que vous devriez vraiment lui dire la vérité? Est-ce que vous pouvez sincèrement lui dire que la vérité totale engendrera des relations vraiment harmonieuses? Suzanne. Les mensonges ne sont que des vérités déformées. Les contre-vérités n'existent pas. Les mensonges ne sont qu'une partie de la vérité. Fin.
World War I wasn't really the First World War. Another regurgitated monologue by Garrett Phelan, 2007. People, George Liam, Cullum, Hillary, Pierre, Bob, Arnold, Desmond, Andrew, William. Start. George. Is World War I really the First World War? Was it really the very First World War? Liam. In the book, Decisions for War, 1914-1918, Cambridge, 2004, Richard Hamilton cites six other World Wars fought on five continents by six or more. The World of the Grand Alliance, the War of the Spanish Succession, 1701 to 1714, the War of the Austrian Succession, 1740 to 48, the Seven Years' War, 1746 to 63, the French Revolution, the French Revolutionary Wars, 1792 to 1702, and the Napoleonic Wars. Using Hamilton's definitions, the Great War of 1914 to 1918 was actually World War VII. Cullum. One of those perennial ones. World War I could well be World War III or World War IV. Revolutionary wars, Napoleonic wars, involved every country in Europe, including Switzerland and Sweden. The theaters of war included Europe, France, Spain, Portugal, Germany, Austrian Empire, Russia, Netherlands, Balkans, Scandinavia, etc., North America, Canada, USA, South America, Spanish colonies in Argentina, etc., the West Indies, India, Africa, Egypt, Algeria, South Africa, Mauritius, Asia, Persia, Palestine, Turkey, East Indies. I may have omitted a few places. The earlier Seven Years' War had a similar geographic spread. Hillary. I'd go with the Seven Years' War, since it's the first war fought by most. Especially true if you loved all the wars of the mid-18th century into one continuing struggle that they undoubtedly were. Offhand, I can't think of the best book on the subject. I have no idea how Wiki is since I haven't checked in the last two minutes. Pierre. War on the Then-Known Continents. My starting book recommendation would be Sir Julian Corbett's Seven Years' War. It's interesting to read something not filtered through the later world wars. One way of defining the term world war is geographical spread. However, there are other interpretations. There are those who would argue that the concept of world war evolved slowly and began early in the 20th century. This school of thought emphasizes the involvement of states in and from different continents, but the impact of the war on the entire populations of the protagonists. In other words, the modern definition focuses on the scale of the conflict and not on just those who were involved, and whether or not a battle or two was fought on or in a particular geographical area. Seen in this way, World War was a function of technological advance. In World Wars I and II, the accelerating pace of research meant the numbers of casualties multiplied at a far greater rate than ever before. But the impact of this process through the populations of the warring nations, deeper and deeper into the conflict. The scale of killing in World War I is well documented, and one reads of full communities in mourning. For the first time, civilizations became involved in the war. Whole families were either fighting at the front or working in war-related industries, threatening to starve the populations into submission. As a consequence, they had to make do and mend as never before. Civilian centers in the homelands became valid bombing or shelling targets. This began in World War I and became a common feature of the Second World War, with RAF, American Air Force, and Luftwaffe raids as in Coventry, London, Dresden, Dresden and Berlin. For the first time, economies of all those involved were involved in the production of war materials. The lives of those not fighting were affected enormously. This accelerating rate of industrial and technological development was the reason why the modern concept of a world war began with World War I, and why modern industrial states possess the means are taking steps to ensure a war of this scale never happens again. By today's standards, the atomic weapons that were used on Hiroshima and Nagasaki are of minor significance. The great powers, America and Russia, really do have the capability to bring about Armageddon. That is why rapprochement and détente, why statesmen are working nonstop to ensure the dialogue that underpins this easing of tension continues. There is little doubt that a third world war, should it ever happen, would be the last one. Of course, wars still happened. The Korean War, 1953, a new concept, limited war. That's a different story altogether. Arnold. Geographically, the Seven Years' War was a world war. North America, as well as Europe, were involved. And while we're at it, I consider the American Revolution our first civil war. Cullum. Harry, on your definition, the Napoleonic was definitely a world war. The Royal Navy's blockade and Napoleon's continental system affected every household in continental Europe and were the causes of Russia's change of size and the USA's involvement, except Britain. By 1814, every street in France had a number of households who had lost fathers and or sons. Starvation had broken out in a number of places. In Spain and Russia, war was total, and civilian died in huge numbers by the actions of occupying troops. The number of civilians involved in war work, producing muskets, balls, and broke out unemployment at war's end. Networks of subcontractors were set up throughout the country, each making standardized parts, a process that was taken as an idea by the Americans. Henry Ford, taxation systems on goods began to be on people and income. Britain introduced income tax. Some of the technology changes may not seem vast to today's eyes, but were considerable for then. Improving casting techniques using coke allowed Britain to produce more cannonballs than France, who still had to rely on expensive bronze for their artillery. Warships had lower deck guns. Carronades in large numbers were produced for Britain's merchantmen. I could go on and on and on, but nurse says they've changed the padding in my room. Desmond, well, there were two civil wars in England, so why shouldn't you have two as well? Bob, categorizing anything is open to discussion as well. If the Napoleonic War fits the criteria, then I have to accept that it was a civil war. I know little about the conflicts mentioned about you. My interests are in war studies and 20th century international studies. I would like to stress one point, though. I didn't say that I disagreed with the definition of world war, that based on geography. I agree that one way of defining the term world war is by referencing it to geographical spread. What I was trying to do was to offer a sense that scale, describing it on my first listing, is seen by some as a defining factor today. Your description of the Napoleonic War seems to meet those criteria. Cullum. There were two civil wars in England, at least four. Stephen and Matilda, Wars of the Roses, English Civil War the First, English Civil War the Second, and if you want to count, 45. uprisings, choose numerous to mention, and they all have a World War I connection. All of these contributed to a deep-seated conviction that even when the political arrangements were involved in 1914, it affected the way Britain faced the conflict. Harry, point taken. I find difficult to define any war as a world war if it didn't incorporate the world. Hillary, at the risk of a semantic argument, I would take a world war as a war that encompasses most of the major powers and most of the world. I would describe Harry's type of war as total war. Perhaps George could clarify what he wanted. If I were talking about total war, I would suggest the 30 years war. George, thank you so much for all of your input. It's really fascinating reading. Can any of you tell me the reason why the First World War was called the First World War? And who and how was that determined? This is probably a ridiculous question, but I will have a go regardless. Cullum, it wasn't initially called World War I, but something like the Great War, the Great European War. I've seen some German references at the time of the World War. These could be translated as Global War. Again, somewhere I've seen a reference to the Worldwide War, some references to the Kaiser's War. American writers dislike this Great European War for some evident reasons, and the Great War may have suffered by association. The Napoleonic Wars were also once called the Great War. It's only really World War II that gave rise to the title World War I. And the Soviet Union, there was no World War I or II, as the latter was the Great Patriotic War or the Tsar's War. Desmond. All right, Cullum, you've got me. I was referring to the English Civil War, numbers 1 and 2, or of the known world at the time it was fought. Andrew, we're answering homework or exams here. Yes, the Seven Years' War. Bob, using the criteria of a geographical spread to define a world war would suggest that a whole list of wars could be included in this category. All one has to do is to listen to the posting so far on this thread, and you'll see what I mean. However, the term world war is a relatively recent origin, and it might suggest that the definition is based purely on what criteria is, well, simplistic. You showed in your last posting that at least one war that occurred before the beginning of the 20th century does fit in with modern interpretation of world war. How many others would do the same, I wonder? An interesting debate, though, Cullum. Hillary, regarding the involvement of the state, the population, and warfare, in warfare, did someone not describe Frederick's Prussia as an army with a state? Bob, this is a really interesting discussion, and it's one I was waiting for. Yes, the term total war suggests a war fought without restraints and where the participating powers realize every resource available to them. Interesting. In a real sense, that describes World War I. Indeed, the generals were striving continuously to extend the limits of technology, tanks, for example, so that they would gain an effective advantage. So are we going to stop talking about World War I as a world war? Or refer to it instead as a total war? Of course, we're not. And yet, there was a period in 1914 to 18, a real attempt to do this, to use every means at our, and in the Germans' case, their disposal to win the war. In other words, each side did its best to gain technological R&D upper hand, and in so doing, win the war. Today, though, we are in a different ballgame. I won't pretend to know when the term total war was coined for the first time, but it wasn't during World War I. It's a relatively modern concept, relevant to the nuclear age, and this is what it implies. A state will use all the means at its disposal to defend an enemy. In World War I, yes, every means available was used once. It wasn't coined until the possibility of Armageddon. In World War II, the technology was already in place, and politicians reacted differently. World War II could have been a total war. Hi, Deba. You should include which determination you think is best. William, his The Seven Years' War is essentially reading With That War, Others by Christopher Duffy and Stephen Brumwell. Redcoats in the Canada are all recommended. Winston Churchill quoted in his History of the English-Speaking Peoples that the Seven Years' War was the First World War. Major battles included Andem, Quebec, Quiberon Bay, Plessy, among many involving the British, and the others with Prussia, Austria, and Russia. Anyone interested in journals, Todd, and quotes, in a soldier of that war, he was the equivalent of a rifleman of the peninsular battles. Harry, Total War. The concept appears to have been first expressed in Goebbels' Total War speech on 18th February 1943, after the Stalingrad disaster. Churchill quoted in the History of the English-Speaking Peoples that the Seven Years' War was the First World War. Major battles included Andem, Quebec, Quiberon Bay, Plessy, amongst many involving the British, and many others with Prussia, Austria, and Russia. Anyone interested in the journals of a soldier of that war could PM me. It was the equivalent of Rifleman Wheeler. Bob, thank you, Cullum. As I've said a dozen times, I befriended you to learn, and I'm doing that, and at the same time, with the help of people like you, I am most grateful. Your posting reinforces something I've already stressed, that the concept of total war is relatively modern. My last conversation was in response to a friend who said that I was talking about total war rather than world war, which this conversation is focused on. He implied that they were mutually exclusive. I tried to show that this wasn't necessarily so. Your example of the Napoleonic War as a world and total war agreed with the criteria that strategists have usually emphasized when discussing the concept. In my last concept, I suggested that in a real sense, World War I also fulfilled this criteria. In other words, the Great War was also a world war, and in a narrow sense, a total war. It was a world war in a sense that, and the populations and protagonists were totally and utterly involved, and a total war in the sense that war at their disposal to achieve victory. However, one can't get away from the fact that the concept of total war didn't really come into being too much later. And when it did, it described a whole new range of possibilities, that war had been transformed out of all recognition by one simple fact, the development of nuclear weapons. The term total war means something completely different than that mentioned by Goebbels in 1943. He was looking backward and sideways at the war that Germany was involved in. Forget the governments available for the moment. Stalingrad wasn't too dissimilar, in some ways, to the Somme and the Passchendaele. It was a total war in the same conceptually narrow sense that I have described World War I. It wasn't, however, a total war in the modern sense. I'm sorry, but I don't think I can express my ideas any clearer way. Desmond, Sparta. That was a couple of thousand years previous. End.